Décryptage. Clotilde Dumais.
Un démantèlement de l'État fédéral avec des milliers de licenciements d'agents et des coupes budgétaires drastiques, des expulsions massives de migrants, des attaques contre les juges et la justice, une offensive contre les politiques de diversité et d'inclusion, le tout à coup de déclarations choc et de décrets signés presque frénétiquement. Plus de 2 mois après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump éprouve les institutions américaines et teste leurs limites, au point de se demander si elles vont tenir. Alors jusqu'où le président des États-Unis peut-il aller ? La démocratie américaine, lui, résistera-t-elle ? On en parle ce soir dans Décryptage. Et pour répondre à ces questions, Maxime Charvot est avec moi en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique, spécialiste de la politique américaine. Pour commencer, peut-être pour bien comprendre un petit peu, reposer le cadre, peut-être tout simplement partir assez basiquement de ce que c'est que la démocratie, d'une définition un petit peu simple et résumée, on va dire, mais de ce que c'est que la démocratie, et peut-être même d'ailleurs qu'on devrait plutôt parler d'état de droit. En tout cas, aux États-Unis, on peut dire que ça repose en partie sur le principe de séparation des pouvoirs, avec donc d'une partie, d'un côté, le pouvoir exécutif, donc exercé par Donald Trump et par son administration. D'un autre côté, le pouvoir législatif qui est là, donc incarné par la Chambre des représentants et le Sénat, donc qui forme le Congrès. Et puis le pouvoir judiciaire, donc les juges et tout en haut, on va dire, la Cour suprême. Ces trois pouvoirs sont censés, on va dire, se contrebalancer, se surveiller mutuellement pour donc garantir cet état de droit. Voilà un petit peu pour poser les bases. Alors si on reprend maintenant ces éléments un par un, pour voir justement si aujourd'hui cet état de droit est garanti depuis le retour de Donald Trump, si on commence d'abord avec le pouvoir législatif, donc le Congrès, la Chambre des représentants, le Sénat, qui sont à majorité républicaine, Maxime Charvot, donc dans le même camp que Donald Trump. Donc déjà, on commence voilà, avec un pouvoir législatif qui est un petit peu acquis à la cause du président américain.
Oui, complètement. Alors avec un petit bémol quand même, c'est-à-dire que il y a deux choses. La première, c'est qu'à la Chambre des représentants, vous avez une majorité qui est très faible et qui sera à la merci, en tout cas dans les deux prochaines années, d'élections partielles qui peuvent encore plus resserrer la différence de voix entre les démocrates et les républicains, avec toujours un ou deux républicains qui n'aiment pas voter avec le reste de leur parti. Mais une certaine quand même cohésion dans le vote qui existe depuis assez longtemps dans la Chambre des représentants américaine et qui a l'air encore plus efficace cette fois-ci. Et du côté du Sénat, vous avez 100 sénateurs qui sont très jaloux de leur pouvoir aussi. Donc une majorité républicaine ne veut pas dire un blanc-seing sur toutes les mesures, étant donné qu'en dehors des questions financières et budgétaires, il faut souvent avoir 60 sénateurs sur 100 pour réussir à passer des paquets législatifs. Et donc ici, cela nécessite des voix démocrates. Donc il y a quand même encore un certain nombre de freins à un blanc-seing complet des décisions du président américain de ce point de vue-là.
Mais c'est vrai que les démocrates aussi, l'opposition démocrate, on la sent quand même assez faible. Hein. Tout de même, elle a notamment participé à l'adoption récemment du budget pour éviter le shutdown.
Oui, complètement. Il y a des voix qui ont été passées pour permettre de commencer le processus budgétaire, on va dire. En tout cas, pour être certain que le gouvernement fédéral américain ait un budget jusqu'au mois de septembre prochain. Et donc, il y a eu des voix démocrates parce que les démocrates souffrent de deux choses. La première, c'est qu'ils ne veulent pas paraître responsables d'un shutdown qui, grosso modo, mettrait à la porte, au moins momentanément, plutôt des électeurs démocrates. Déjà. Et deuxièmement, il y a un petit peu une perte de leadership du côté démocrate. Il n'y a pas de président démocrate en exercice. Il n'y a pas le chef de parti est traditionnellement une personne un petit peu obscure du point de vue du système partisan américain. Et donc sans président en exercice, sans candidat clair pour les prochaines élections, vous n'avez pas vraiment de direction encore pour l'instant au sein du Parti démocrate, qui est toujours en train de faire son auto-analyse sur les raisons de l'échec de l'automne dernier.
Et puis aussi le Congrès qui est donc censé voter la loi. Le problème, c'est que Donald Trump, lui, il gouverne beaucoup à coup de décrets présidentiels et il ne passe donc pas par les parlementaires.
Complètement. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a les décrets présidentiels qui lui permettent de revenir sur des décrets présidentiels précédents qui avaient été adoptés sous Joe Biden. Et donc, comme Joe Biden, comme Obama l'avait fait auparavant, avait beaucoup alors, légiféré, entre guillemets, du point, grâce au décret, tous ces éléments-là, pour la plupart, en tout cas, peuvent être annulés par un simple décret présidentiel de la part de Donald Trump. Et deuxièmement, Donald Trump, aujourd'hui, essaie de pousser les limites de ce qu'il est capable de faire avec les décrets présidentiels, en forçant les cours américaines et notamment la Cour suprême à revenir sur des précédents, notamment sur un précédent des années 90 qui interdisait au président américain de décider de ne pas dépenser ou de dépenser moins sur des éléments du budget américain, c'est-à-dire de trier un petit peu ce sur quoi il était d'accord pour en tout cas dépenser les fonds alloués, appropriés, et ce sur quoi il n'était pas d'accord. Ce que Bill Clinton avait essayé de faire dans les années 90, ce que Reagan avait fait dans les années 80 auparavant, mais la Cour suprême en 96 de mémoire avait dit non. Et aujourd'hui, parce qu'il fait le pari d'une Cour suprême beaucoup plus conservatrice, Donald Trump essaie de pousser et forcer les cours à revenir sur ses précédents pour lui permettre d'élargir ses pouvoirs, tout simplement.
Puisque vous évoquez la Cour suprême, c'est effectivement le pouvoir judiciaire. C'est peut-être lui actuellement qui a peut-être le plus de cartes en main. Beaucoup de décisions prises justement par décret par Donald Trump sont actuellement devant les tribunaux, sont en train d'être analysées. On pense au licenciement de beaucoup d'employés fédéraux, à la fin de l'aide américaine au développement, pour ne citer que ces grandes décisions, on va dire. Est-ce que tout de même la justice a une occasion de jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir quand on sait que certains juges font l'objet de menaces de la part de l'administration Trump? Je voudrais qu'on écoute notamment les récents propos de la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, c'était sur Fox News.
Beaucoup de juges doivent être démis de leurs fonctions. Le juge Howell, le juge Reyes et le juge Boasberg. Ces juges ne peuvent évidemment pas être impartiaux, ils ne peuvent pas être objectifs. Ce sont des juges perturbateurs. Ils essaient de contrôler tout notre pays. Ils essaient d'entraver le programme de Donald Trump.
Voilà, alors là, ce sont les propos de Pam Bondi, mais il y en a eu d'autres de l'administration Trump qui sont globalement similaires. Et elle cite, elle, notamment ce juge fédéral James Boasberg, que le président américain d'ailleurs lui-même a dit vouloir destituer, puisque c'est celui qui a suspendu l'expulsion de centaines de migrants vénézuéliens vers le Salvador. Et d'ailleurs, cette suspension qui n'a pas été appliquée par l'administration Trump. Est-ce que les juges, donc, Maxime Chervaux, peuvent tenir bon face à ces attaques, selon vous?
Oui, alors les juges tiennent bon, soyons tout à fait clairs de ce point de vue-là. Le chef de la Cour suprême américaine a lui-même d'ailleurs pris la parole pour affirmer qu'il n'y aura pas de raison de destituer des juges américains. On ne destitue pas des juges pour des raisons politiques, on destitue des juges pour des fautes graves. Et d'ailleurs, c'est arrivé très rarement dans l'histoire américaine, une poignée de fois. Ce qui est important de noter, c'est que c'est une manière, du point de vue de l'administration Trump, de faire pression sur les juges en se disant, bon, c'est une manière peut-être de les forcer ou d'en forcer certains à ne pas statuer vraiment complètement à l'encontre du président, en sachant que la stratégie du gouvernement américain aujourd'hui, c'est tout simplement de lancer le maximum de sujets sur la table, de pousser le plus loin les limites, et puis de voir ce qui tient à travers les cours, voire en fonction des décisions de justice, de reprendre peut-être plusieurs fois certains décrets qui ont été mis en avant pour réussir à faire quelque chose qui rentre dans les clous, grosso modo. Mais quand on regarde les décisions des cours à toutes les échelles jusqu'à maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que les juges nommés par Donald Trump auparavant ou nommés par George W. Bush ne statuent pas moins en défaveur du président que les juges nommés par des démocrates. Donc c'est quand même une certaine chimère. Il y a une politisation des cours américaines qui est très nette depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, mais en même temps, regarder qui a nommé un juge à la Cour suprême comme dans une cour fédérale n'est pas la garantie de savoir comment cette personne-là va réagir face à des décisions de l'administration Trump. Durant son premier mandat d'ailleurs, Donald Trump s'était emporté plusieurs fois contre des juges qu'il avait lui-même nommés à la Cour suprême en les accusant de déloyauté, tout simplement.
Ça veut dire que la Cour suprême, elle peut vraiment jouer son rôle et rester relativement impartiale, parce que on se rappelle quand même que c'est elle notamment qui a permis à Donald Trump d'avoir cette immunité présidentielle dans le cadre des procès qui étaient contre lui. Donc on se dit quand même que elle peut être impartiale, mais malgré tout, elle est à majorité républicaine, cette Cour suprême.
Oui, complètement. Alors sur la question de l'immunité, c'était quand même dans la continuité grosso modo des précédents qui depuis un certain nombre d'années quand même. La Cour suprême, oui, et la Cour suprême, notamment les juges à la Cour suprême, sont très très jaloux de leur indépendance. Ils sont très jaloux, notamment le chef de la Cour suprême aujourd'hui, est très jaloux de maintenir, en tout cas dans les faits comme dans ses postures, une indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs américains. Et donc c'est quelque chose sur lesquels ils sont très sensibles en général. Bon, on peut toujours regarder dans le détail des différents juges. Mais il y a fort à parier que dans les annonces qui vont être faites, en général, la Cour suprême, sauf sur des annonces urgentes, a tendance à publier ses décisions dans, au mois de mai, au mois de juin. Donc c'est très possible que d'ici le mois de juin et la fin de la session de la Cour suprême cette année, des décisions soient prises contre, à l'encontre du président américain sur un certain nombre des sujets qui sont sur la table aujourd'hui.
La question qui se pose tout de même parfois, c'est et si jamais Donald Trump ne respectait pas une décision de la Cour suprême ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ?
Ça, c'est la...
C'est l'inconnu.
C'est une vraie inconnue. C'est déjà arrivé dans l'histoire américaine. On se souvient du président Andrew Jackson qui avait déjà refusé de mettre en place des décisions de la Cour suprême sur notamment le déplacement des tribus amérindiennes à une époque aux États-Unis. Donc, vous avez quelques précédents dans l'histoire américaine. C'est pas quelque chose... c'est quand même marcher sur des œufs du point de vue de l'administration Trump. Hein. Vous voulez pas non plus franchir une ligne qui fasse vraiment peur aux personnes qui ont élu Donald Trump derrière, et on voit déjà que du point de vue des indépendants, et on verra d'ailleurs cela demain dans les deux élections partielles qu'il y a en Floride, mais également celle de la Cour suprême du Wisconsin, on verra déjà demain comment les indépendants se positionnent par rapport à l'administration Trump, et on sent déjà un certain revirement. Alors, faire campagne sur la défense de l'état de droit et de la démocratie, ça ne gagne pas. On ne gagne pas sur ce genre de questions, mais il y a fort à parier qu'à un certain moment, ça devienne vraiment gênant du point de vue des électeurs indépendants et d'une partie du Parti républicain, et que aller trop loin ne serait pas à la faveur de l'administration Trump.
Alors au-delà de ces pouvoirs législatifs, judiciaires, il y a aussi la société civile qui peut agir, mais c'est vrai que là aussi Donald Trump les tient un petit peu, on va dire, avec toutes ces coupes budgétaires, du côté scientifique, dans les médias, dans la culture. Là aussi on a la sensation que la mobilisation a du mal à vraiment prendre.
C'est pas... Alors, il y a deux choses. La première, c'est que les démocrates sont vraiment désemparés. Depuis l'élection de l'automne dernier, on n'a plus de leadership, on ne sait pas quelle stratégie peut être gagnante face à Donald Trump. Vous n'avez pas de personnalité qui sort incontestablement et derrière lesquelles les démocrates peuvent se rallier, même si on sent quand même un certain sursaut quand même, mais à la base même du Parti démocrate. Hein, on le voit dans les town halls qui ont lieu en ce moment aux États-Unis, on le voit dans le public que Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez arrivent à réunir également sur un certain nombre de rassemblements électoraux ou de campagnes. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que l'administration Trump arrive avec un programme bien plus complet, bien plus préparé. Que durant son dernier mandat, et que sur des sujets sur lesquels on les attendait réellement, comme la lutte contre la discrimination positive, la lutte contre le changement climatique, par exemple, l'administration a immédiatement ou très rapidement, dès son arrivée en fin janvier, mis la pression sur ses contre-pouvoirs potentiels. On l'a vu menacer des grandes universités américaines de leur retirer des budgets s'ils ne mettaient pas à bas tous les programmes de discrimination positive, par exemple. C'est très efficace parce que les universités le font. On l'a vu également avec des grands cabinets d'avocats à Washington ou autres, en les menaçant simplement de leur retirer les contrats fédéraux. Et donc, de toutes ces... on le voit sur des médias indépendants, on le voit sur les entreprises, on le voit sur... Même si... Là, il y a aussi un côté plus personnel peut-être pour Donald Trump. On le voit aussi sur les institutions culturelles, comme le Kennedy Center à Washington. Il y a vraiment une volonté de tout de suite casser les potentiels lieux de la résistance, qui sont des lieux traditionnels de la résistance du point de vue démocrate face à un gouvernement républicain. L'effort de réunion pour les démocrates et l'effort d'auto-analyse pour les démocrates sera beaucoup plus difficile à partir du moment où ils sont mis à mal dans les lieux où on les attend, en tout cas au niveau fédéral. Et c'est plutôt dans le quatrième, on va dire, contre-pouvoir, si on peut l'appeler comme ça, que les choses peut-être seront plus faciles pour les démocrates, c'est dans les États. parce qu'on reste dans un État fédéral dans lequel les États, et Donald Trump d'ailleurs a cherché à leur redonner, en tout cas il a dit chercher à leur redonner beaucoup de pouvoir, et c'est probablement du côté des États que l'on arrivera à trouver une résistance politique à l'administration Trump.
Je voudrais quand même revenir très rapidement sur les médias, parce que c'est vrai que il y a eu ce décret donc, qui prévoit le démantèlement de l'agence qui s'occupe un petit peu des médias américains à l'étranger. Il y a aussi Associated Press qui n'a plus accès à la Maison Blanche. Voilà, on voit que c'est quand même assez compliqué. On voit qu'il y a aussi certains journalistes qui sont un peu écartés dans certains médias dits potentiellement plus démocrates. Ça veut dire que là aussi, voilà, c'est un petit peu difficile de trouver une résistance à Donald Trump. Alors, il y a ce contre-exemple de The Atlantic, de ce qui vient d'être sorti, donc avec le rédacteur en chef Jeffrey Goldberg, donc sur cette histoire du Signal Gate. Mais on sent que ça, c'est fragile pour le moment.
Oui, alors l'appareil médiatique financé par l'État, celui qui diffuse en tout cas vers l'étranger, ça a longtemps été, comme la radio publique américaine NPR, ça a longtemps été des cibles privilégiées du renouveau conservateur des années 90 et 2000, quand on a eu cette culture wars, comme cette guerre culturelle, la première guerre culturelle dans les années 90. Une des cibles immédiates a été la télévision publique et les télévisions ou les médias qui diffusent vers l'étranger également aussi. Donc ça, c'est assez peu surprenant que ça soit encore une fois des victimes, en tout cas des coupes qui ont été faites du point de vue de l'administration fédérale. Du point de vue des médias, oui, comment dire, les médias se sont toujours pour le coup présentés comme le quatrième pouvoir américain, hein, depuis les années 70, c'est le Watergate notamment, mais en fait depuis le début de l'histoire américaine, l'histoire politique américaine. La difficulté, ce qui change beaucoup par rapport au premier mandat de Trump, c'est que vous avez aussi des pouvoirs qui ont tout de suite, adopté une position beaucoup plus pro-gouvernement, notamment je pense au Washington Post, qui a longtemps été quand même au lieu du journalisme d'investigation et qui a perdu beaucoup de ses journalistes vedettes, et dont d'ailleurs Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui est patron de Washington Post, a clairement dit il est hors de question de publier des tribunes qui ne sont pas pro-marché, pro... Donc vous avez vraiment une volonté beaucoup plus large de serrer les rangs derrière l'administration Trump du point de vue d'une partie des médias américains. Et l'administration est beaucoup plus claire dans sa volonté de ne plus donner une certaine primauté à des médias présents de longue date, hein, le New York Times, The Atlantic ou d'autres. Mais on voit avec l'incident de Atlantic que les médias américains ont un gros pouvoir encore à jouer aujourd'hui. Donc voilà, ce qui sera aussi intéressant de ce point de vue-là, c'est plutôt la position des plateformes américaines, Meta et autres, justement sur leur capacité à limiter ou non la diffusion justement des travaux de ces médias américains.
Est-ce que ces coups, en tout cas portés pour le moment à l'état de droit par Donald Trump et son administration, est-ce que ça peut avoir des répercussions à plus long terme, au-delà de Donald Trump et aussi à l'étranger? Forcément, on pense à ce qui se passe aujourd'hui avec Marine Le Pen qui est condamnée. Est-ce que ça va infuser pour un moment, Maxime Chervaux?
Alors, dans l'histoire, pour ce qui est des États-Unis déjà, oui, c'est-à-dire que chaque président a toujours tendance à repousser les limites un peu plus loin. On le voit, l'augmentation des pouvoirs du président américain, c'est un travail de plus de 60 ans, 70 ans. Donc il y a toujours, chaque président américain a toujours poussé un petit peu plus loin les limites de ce qu'il était capable de faire jusqu'auparavant. À chaque fois avec la Cour suprême et le gouvernement et le Congrès américain qui, restabilise les limites, en tout cas d'une certaine manière. La dernière fois qu'il y a eu un réel reflux, c'était les années 70 après le scandale du Watergate, mais on a réexplosé un petit peu tous les garde-fous qui avaient été mis en place à l'époque. Donc oui, il y a un précédent qui sera en place pour les suivants. Donc de ce point de vue-là, le message n'est quand même pas complètement positif pour la suite, optimiste pour la suite.
La balance des pouvoirs penche plus.
Voilà, alors
c'est
cyclique dans l'histoire américaine. Hein, c'est pareil, vous avez aussi un certain rebasculement des pouvoirs par période entre l'État fédéral et les États fédérés. Hein, ce qui est d'ailleurs un des mots d'ordre apparemment de l'administration Trump, même si Donald Trump n'est pas pour moi un État fédéral. C'est juste qu'il l'utilise de manière différente en pratique. Du point de vue du message que ça donne pour le reste du monde, oui, une attaque contre l'État de droit dans le pays qui se targue être le grand défenseur de la démocratie donne un mauvais exemple pour d'autres partis de droite radicale qui chercheraient également à utiliser les institutions à des fins électoraux et non pas à respecter les institutions à leur fin électorale.
Effectivement, ça résonne un petit peu particulièrement en France, donc avec cette condamnation de Marine Le Pen qui dit ce soir que l'état de droit a été violé. Marine Le Pen, donc inéligible pendant 5 ans en France. Merci beaucoup Maxime Chervaux d'avoir répondu à l'invitation de RFI ce soir pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique, spécialiste de la politique américaine. Et je rappelle aussi que cette émission est à réécouter en podcast sur le site internet ou l'application Pure Radio de RFI. Valentin Vanneur était à la réalisation ce soir, merci. Et merci également à la cellule invitée et au service documentation de RFI.